dans le second livre de Samuel, dans les chapitres 22 et 23. Samuel 22, 1. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, le jour où l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, de la main de Saül. Et il dit, « L'Éternel est mon rocher et mon lieu fort, et celui qui me délivre. Dieu est mon rocher, je me confierai en lui. Mon bouclier est la corne de mon salut. Ma haute retraite est mon refuge. Mon sauveur, il me sauvera de la violence. Je crierai à l'Éternel qui est digne d'être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. Car les vagues de la mort m'ont environné, les torrents de Bélial m'ont fait peur. Les cordeaux du Sheol m'ont entouré, les filets de la mort m'ont surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et j'ai appelé mon Dieu, et de son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alors la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux furent secoués, furent ébranlés parce qu'il était irrité. » Verset 16. « Alors les lits de la mer parurent, les fondements du monde furent mis à découvert quand l'Éternel les tensait par le souffle du vent de ses narines. D'en haut, il étendit sa main, il me prit, il me tira des grandes eaux, il me délivra de mon puissant ennemi, de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma calamité, mais l'Éternel fut mon appui. Et il me fit sortir au large, il me délivra, parce qu'il prenait son plaisir en moi. L'Éternel m'a récompensé selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel, et je ne me suis point méchamment détourné de mon Dieu. » Verset 28, « Tu sauveras le peuple affligé, et tes yeux sont sur les hautains, et tu les abaisses. Car toi, Éternel, tu es ma lampe, et l'Éternel fait resplendir mes ténèbres. Alors par toi, je courrai au travers d'une troupe, par mon Dieu, je franchirai une muraille. Quant à Dieu, sa voix est parfaite. La parole de l'Éternel est affinée, il est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu hormis l'Éternel, et qui est un rocher hormis notre Dieu? Dieu est ma puissante forteresse, et il a plani parfaitement ma voie. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches et me fait tenir debout sur mes lieux élevés. Il enseigne mes mains à combattre, et mes bras bandent un arc d'airain. Tu m'as donné le bouclier de ton salut, et ta débonnaireté m'a agrandi. » Verset 44. « Tu m'as délivré des débats de mon peuple. Tu m'as gardé pour être le chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas me servira. » Verset 47. « L'Éternel est vivant, et que mon rocher soit béni, et que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui m'a donné des vengeances, qui a amené les peuples sous moi. » Verset 50. C'est pourquoi, Éternel, je te célébrerai parmi les nations et je chanterai des cantiques à la gloire de ton nom. C'est lui qui a donné de grandes délivrances à son oint et qui use de bonté envers son oint, envers David et envers sa semence à toujours. Et ce sont ici les dernières paroles de David. David, le fils d'Isaïe, a dit, est l'homme haut placé, loin du Dieu de Jacob. Et le double psalmiste d'Israël a dit, « L'Esprit de l'Éternel a parlé en moi, et sa parole a été sur ma langue. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé. Celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant à la crainte de Dieu. Il sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuages. Par sa clarté, l'herbe tendre germe de la terre après la pluie. Quoique ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu, cependant, il a établi avec moi une alliance éternelle, à tous égards bien ordonnée et assurée, car c'est là tout mon salut et tout mon plaisir, quoiqu'il ne la fasse pas germer. Mais les fils de Bélial sont tous comme des épines qu'on jette loin, car on ne les prend pas avec la main. Et l'homme qui les touche se munit d'un fer ou d'un bois de lance, et ils seront entièrement brûlés par le feu sur le lieu même. » C'est la fin du cantique, puisque le verset 8 commence par un astérisque et nous parle des hommes forts de David. C'est l'Esprit de Dieu qui a réuni dans la parole de Dieu, la parole éternelle, ces deux cantiques qui ont été composés à des occasions différentes et à des moments probablement différents. La parole ne permet pas de situer le moment où David, le doux psalmiste d'Israël, a composé le premier des cantiques. Il nous est simplement dit, dans l'introduction de ce psaume, de ce cantique, qu'il a été composé à l'occasion du moment où Dieu avait soumis ses ennemis, avait délivré de ses ennemis. Et c'est effectivement bien un merveilleux cantique de joie et de délivrance. Le second cantique du chapitre 23 nous présente les dernières paroles de David. C'est important de s'arrêter ce que pourrait être, ce qu'a pu être le dernier message d'un homme de foi comme David, plus tard comme Paul, d'autres aussi. Le temps du départ était arrivé pour Pierre, il n'avait aucune peine à répéter pour la sûreté des saints les choses qu'il savait déjà. Il leur laissait un message d'amour pour qu'ils continuent dans le chemin. Paul aussi, en face de la ruine de l'Église. Ici, c'est un peu différent parce que ce que David nous dit dans le second cantique est beaucoup plus en rapport avec sa propre vie à lui. Et plus exactement avec la seconde partie de sa vie et les conséquences de sa conduite lorsqu'il était sur le trône. On peut le dire peut-être laissé à lui-même parce qu'il y a eu dans sa vie, lorsqu'il était arrivé sur le trône, lorsqu'il avait le pouvoir entre les mains, il y avait peut-être moins de dépendance de Dieu, du Saint-Esprit, dans la première partie de sa vie. Alors ces deux cantiques nous sont présentés ensemble pour que nous réalisions bien que nous sommes un objet de grâce, que l'amour du Seigneur doit nous suffire, et qu'en même temps, ce que nous faisons dans ce monde porte des conséquences en gouvernement. Et le gouvernement, la discipline de Dieu, est une forme adaptée à notre conduite de l'amour dont le Seigneur nous aime, de l'amour dont Dieu nous aime. Néanmoins, les conséquences subsistent. De sorte que la conséquence du fait que David, pendant la première partie de sa vie, lorsqu'il a été le roi rejeté, était simplement une perdrix sur les montagnes contre laquelle on chassait pour lui prendre sa vie. La conséquence, c'est une délivrance merveilleuse, une joie et un bonheur qui sont sans mélange. Et puis lorsque David a appris ce qu'il était en lui-même, et qu'il a laissé sa maison dans un état qui n'était certainement pas une bénédiction entière, alors il dit, bien pourquoi que ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu. Alors si David comprend d'un côté que dans la fin, la première partie de sa vie, c'est, et dans une mesure c'était une conséquence de sa conduite, regardez comment il est dit, verset 21, « L'Éternel m'a récompensé selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Dans la seconde partie de sa vie, eh bien, il faut dire que David a recueilli quand même certains fruits amers de ses manquements. Mais le gouvernement de Dieu ne se sépare jamais de son amour. La grâce et le gouvernement sont deux rails parallèles, et on peut le dire qu'ils nous conduisent quand même jusqu'au bout, qui nous conduisent jusqu'au moment où il n'y aura plus besoin de la vigilance, il n'y aura plus de combat, ni intérieur, ni extérieur. Parce qu'en définitive, c'est la conséquence des deux combats. Le premier cantique de 2 Samuel 22, c'est le combat avec les ennemis de l'extérieur. Et ses conséquences de 2 Samuel 23, c'est le combat avec l'ennemi intérieur, notre moi. L'ennemi le plus invulnérable, bien que, en puissance, fondamentalement, notre moi a été brisé, a été crucifié avec Christ à la croix. La grande question de la vie chrétienne est d'en tirer les conséquences pratiques et de se tenir effectivement pour mort en même temps que pour vivre à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le cantique de 2 Samuel 22, le premier des cantiques, se trouve presque intégralement au psaume 18. Et cette place dans les psaumes 16 à 24, ils sont tous prophétiquement, merveilleusement en rapport avec Christ, en rapport avec quelque chose de sa vie, de son service, de son œuvre, de sa mort, de sa résurrection. Le psaume 18 nous incite donc à penser que David a parlé de Christ dans ce cantique. Mais il y a aussi une application à sa vie propre, à sa vie personnelle. Il y a plus même d'ailleurs, puisque des traits comme le verset 8 à 15 nous font anticiper prophétiquement ce que sera plus tard la délivrance du résidu. Et puis le verset 10, 16 et 17 nous rappelle ce qu'a été la délivrance d'Égypte. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ce psaume a une portée extrêmement grande. Il faut faire très attention à la manière dont nous l'appliquons. Et de toute manière, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose pour notre bien. C'est le grand trait de ce psaume, c'est quand même le psaume de la délivrance, le psaume de la joie, le psaume du bonheur. Alors pourquoi en a-t-il été ainsi ? Bien parce que David, dans la première partie de sa vie, bien qu'ayant été un roi rejeté, a été un serviteur fidèle, un serviteur gardé qui était au fond aux soins de Dieu, aux soins de son berger. Lui-même était berger. C'est impossible en une seule réunion de résumer la vie de David. Cette vie nous est donnée pour notre instruction et pour, on peut le dire, pour la joie et l'étonnement de nos cœurs, avec beaucoup de détails. Je crois que la première mention de David, elle est indirecte, c'est lorsque Saül est rejeté, que Dieu jette les yeux sur son peuple et va trouver quelqu'un, un roi qui est selon son propre cœur, alors que Saül avait été en fait nommé comme étant un roi selon le cœur de l'homme, selon le cœur d'Israël. Je leur ai donné un roi dans ma colère et je leur ai ôté dans ma fureur, est-il dit quelque part dans le prophète Osée. Saül était un homme qui était plus beau, plus grand, de plus belle prestance que tous les hommes d'Israël. Des épaules à la tête, au-dessus, il était plus grand que tous les hommes. C'est un homme qui était, selon la chair, le plus beau. Et pourtant, qu'avait-il en lui ? Eh bien, beaucoup de méchanceté. Beaucoup, à la fin de sa propre vie, à Saül, beaucoup de prétention et d'orgueil. Dieu l'arrête en lui disant, mais ne te rappelles-tu donc pas ce que tu étais lorsque tu étais petit à tes propres yeux ? Saül a gravement manqué en ce qu'il a sacrifié en évitant d'attendre l'arrivée du prophète, de ce qu'il n'a pas exercé la vengeance que Dieu avait en réserve contre les ennemis jurés du peuple qui étaient les Amalékites. Et pour cette raison, Saül a été rejeté. Et ensuite, il a invoqué les esprits, il a été voir cette femme qui invoquait les esprits, et c'est un péché qui a été porté à son actif, et que la parole particulièrement souligne. Alors quelqu'un a dit parmi nous ne savons absolument pas ce que pouvait être la vie de Saül tout à la fin. Nous savons qu'il s'est jeté sur son épée pour éviter d'être frappé par ses propres ennemis. Ce qu'a pu être le travail de Dieu dans le cœur, nous n'en savons absolument rien, c'est l'avenir qu'il révélera. De toute manière, sa vie a été une faillite, comme roi et comme homme. Alors Dieu le remplace, elle remplace par quelqu'un, la royauté était déjà, Dieu était le roi du peuple. Et si le peuple avait été fidèle, il serait resté sous le joug de Dieu. C'était été bien meilleur pour lui. Il voulait un roi, Dieu le leur donne, le leur retire, et maintenant il nomme un roi selon son cœur, qui est David, et qui sera la racine, et dont Christ est la racine et la postérité. C'est-à-dire, Christ est fils de David, et en même temps, David est le fils de Dieu, comme homme selon la chair. Au chapitre 15, verset 35, il nous est dit de 1 Samuel, page 215, « Samuel ne vit plus Saül jusqu'au moment de sa mort. » Verset 16, « J'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. » Samuel va à Bethléem, les anciens de la ville tremblent en le voyant arriver. Il y avait quand même une autorité morale, cet homme, le voyant, le prophète, et Samuel rend visite à Isaïe et à sa famille. Les sept passent devant lui, il n'y avait rien. Parmi ceux-là, c'était l'apparence extérieure qui ne comptait pas. Et Dieu le lui dit. Samuel, en fait, se trompe dans les références, se trompe dans la mesure de foi. Ne regarde pas son apparence et la hauteur de sa taille, je l'ai rejeté. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel regarde au cœur. Il restait encore un jeune homme. Lui, il était occupé, non pas à se montrer, mais à prendre soin des brebis de son père. Le premier caractère de David, c'est sa beauté. Le deuxième caractère, c'est son humilité. Et ensuite, sa fidélité dans le service sans prétention. Son père Isaïe lui avait donné le troupeau à garder. David a été un berger. Il est certain que cette première occupation de ce jeune homme a eu des conséquences dans sa conduite dans la vie. Un berger s'occupe du bien de ses brebis, du bien du troupeau. Christ est le bon berger et Christ nous invite à regarder de même au troupeau du Seigneur, au troupeau de Dieu sur la terre, avec les yeux du berger pour s'occuper du bien des brebis. Les dangers sont multiples, on voit un tout petit peu plus loin, et c'est rétrospectivement devant Saül que David en parle, il n'en avait pas parlé. Il y a un jour un lion, une autre fois un ours qui arrive pour prendre les brebis du troupeau. David se lève sans armes, extérieurement, simplement par la foi, dans la fidélité de son service, frappe et le lion et l'ours. Il ne s'en était vanté à personne, c'est à l'occasion du combat dans la vallée d'Ella que David révèle ce secret en passant, sans en tirer gloire d'ailleurs, à Saül. Quelle beauté morale nous avons dans cet homme, quelle simplicité de la foi, quelle énergie, quelle absence de recherche de soi-même, oh, quel merveilleux modèle devrait être ce David du début de sa vie pour chacun de nous sans exception. David, de ce point de vue-là, lorsqu'il est dit qu'il avait le teint rosé, il avait de beaux yeux, était beau de visage, chapitre 16, le verset 12, nous rappelle des traits de beauté du corps, de l'homme, de Joseph et de Moïse, qui étaient divinement beaux. C'est une faible mesure, une faible image de ce qu'est celui, nous l'avons dit dans une prière ce matin, celui qui était plus beau que les fils des hommes pour la foi et pour le résidu. C'est plus tard ainsi que le résidu le reconnaîtra, pas tout de suite. Nous n'avons pas trouvé en lui rien, aucune apparence qui nous le fasse désirer. Il était comme ce rejeton, cette racine sortant d'une terre aride, n'ayant ni forme ni éclat. Il est à la fois celui qui a les cheveux blancs de la gloire et de l'éternité, et il y a les cheveux noirs comme l'aile du corbeau, de la beauté qui touche le cœur de l'Église, le cœur de l'épouse, en Cantique des Cantiques. Alors, la vie de David commence ainsi, dans le secret. Il est formé à l'ombre. C'est peut-être une leçon que nos jeunes peuvent recevoir à l'occasion de cette occasion de David. M. Chaudier nous a souvent enseigné ici même, jeunes, ne partez pas toute voile dehors, il faut peut-être commencer humblement et dans le secret. Mais, dans une mesure, et surtout, pour autant, ne nous décourageons pas et ne pensons pas et ne pensons pas que la paresse remplace l'énergie extérieure. Bien au contraire. Il faut simplement que cette énergie, surtout celle de la jeunesse, soit canalisée à l'œuvre de Dieu et que notre cœur soit formé à écouter la parole de Dieu. Ce qui donc caractérise ici David, c'est la fidélité dans le service. Et une fidélité qui ne se vante pas, qui ne s'enorgueillit pas, qui ne s'élève pas à ses propres yeux. Le monde ne l'a absolument pas jugé. Même Samuel s'est trompé, puisque les sept premiers fils les plus âgés ont passé devant Samuel, ce n'était pas eux, et que lorsqu'il s'est agi du combat contre le Philistin, Eliab, le frère aîné, est fort méchant à l'égard de son petit frère et horriblement injuste. 1 Samuel 17, le verset 28, et il entendit ces paroles, la colère d'Eliab s'embrasa contre David. Pourquoi es-tu descendu? Je connais moi ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. On juge trop souvent les autres par son propre état. C'est ce que fait Eliab ici. Alors David lui répond une phrase qui classe tout. Qu'ai-je fait maintenant? N'y a-t-il pas de quoi? Effectivement, il y avait bien de quoi. Il y avait la vallée d'Ella, la vallée des Térébintes, la vallée de la mort. Il y avait un homme, un géant, qui était puissant, qui était à la tête des Philistins, de ceux qui outrageaient les armées d'Israël. Et le peuple-là était en danger de mort. Le Philistin avait outragé Israël, ses troupes, les armées. Il avait outragé Dieu à travers Israël. Personne n'y pouvait rien. Alors David, lui, continue en fait cette énergie de la foi qu'il avait apprise en gardant les troupeaux de son père. Et se présente. Il se présente tout seul. Saül, le roi selon la chair, veut lui mettre une armure sur lui. Mais non, mais je ne l'ai jamais essayé, je ne peux pas marcher avec ça. Les cinq pierres lisses du torrent, une fronde, et quelle était la force de David? La force de David, simplement, c'était que Dieu était avec lui. Et il n'a, le seul critère que David ait compris et qui était de toute importance, c'est que le Philistin tomberait parce qu'il s'en était pris à Dieu lui-même, en s'attaquant à Israël et au peuple de Dieu. Nous avons affaire au même ennemi. Le Philistin est un type évident de Satan. Satan s'en prend au peuple de Dieu. Satan est l'ennemi de Christ. Et Satan a été vaincu à la croix. Il a été vaincu par la mort. C'est par la mort qu'il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, le diable. Hébreux 2 nous dit cela en rapport avec Christ. Alors David fait exactement cela, effectivement, pour que ceci soit un symbole pour nous. Il descend dans la vallée, les cinq pierres lisses, il prend une pierre, frappe le géant au front, le géant tombe, il n'avait pas d'arme sur lui, il prend la propre arme du Philistin et lui coupe la tête. C'est par la mort que Christ a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Et regardez comment l'inconséquence de la chair en Saül ne reconnaît pas l'homme de foi. Saül l'avait déjà vu. Eh bien, il pose la question à la fin du chapitre 17, « Mais Abner, fils de Ner, de qui ce jeune homme là est-il fils ?» Et David se présente, son seul titre, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. » Là, les choses commencent à mal aller pour l'un et l'autre. Bien aller pour David spirituellement, mais dans ces circonstances, les choses vont très vite s'aggraver de beaucoup. Parce que dès lors, la jalousie s'empare, morbide s'empare de Saül, et en fait, il désire se débarrasser de David. Pourtant, David était un secours pour lui. Un mauvais esprit avait été envoyé de la part de Dieu pour troubler Saül. Et lorsque David jouait de la musique, jouait de la harpe devant Saül, le mauvais esprit était annulé. Le mauvais esprit est envoyé de Dieu au verset 10 du chapitre 18. Alors, Saül chasse David. L'amitié profonde qui unissait Jonathan, le fils de Saül, avec David, n'a rien fait. Jonathan a pris, dans une mesure, le parti de celui qu'il aimait comme son âme, contre son père, mais d'un autre côté, il est resté dans la maison de son père à partager sa ruine. Ce qui, c'est une autre chose qui nous écarte peut-être un peu du sujet que nous avons devant nous cet après-midi. Pour David, nous le retrouvons un peu plus loin, dans le chapitre 22, dans une caverne à Adullam, 400 hommes avec lui. La description de ces 400 hommes pour le monde est effrayante. Et c'est la gloire de la foi. Il y avait des hommes qui étaient dans les dettes, des hommes qui étaient dans la détresse, des hommes qui avaient l'amertume dans l'âme, et David est leur chef. On trouve David qui est déjà oint roi sur Israël dans la caverne, mais il est un roi rejeté. On y trouve Gad le prophète qui va venir auprès de lui. Et on y trouve Abiathar le sacrificateur qui a échappé de justesse au carnage de Doeg l'Édomite qui a mis à mort 85 hommes portant les fautes de l'un. Et Abiathar reçoit cette consolation de la part de David, cette promesse, cette assurance. Verset 23 du chapitre 22, 1 Samuel 22-23, « Demeure avec moi, ne crains point. » Celui qui cherche ma vie cherche ta vie, et près de moi, tu seras bien gardé. Par deux fois, on peut dire que c'est Dieu qui a préparé les circonstances, et Saül est à portée de main de David. David aurait pu se venger. Là, on voit la grandeur d'âme de cet homme, la sensibilité de son cœur et l'exercice de sa conscience. Il ne veut pas porter la main sur loin de l'Éternel. Et pourtant, Saül, à ce moment-là, était déjà un roi rejeté, et David, déjà à ce moment-là, était un roi ouin. Donc la royauté était déjà dans la main de David. Et pourtant, David garde les choses comme elles étaient auparavant. Ces hommes qui sont avec lui le poussent, il résiste. Il va quand même un petit peu plus loin que son cœur ne l'aurait voulu. 1 Samuel 24, le verset 6. David se leva et coupa secrètement le pan de la robe de Saül. Et il arrivera après cela que le cœur de David le reprit de ce qu'il avait coupé le pan de la robe de Saül. Sa conscience ne lui reprochait rien. Il n'avait pas porté la main sur le roi. Mais son cœur lui disait, il aurait peut-être dû ne pas couper le bord du vêtement de son maître, de celui quand même qui était son beau-père, parce qu'il avait épousé sa fille. On voit un peu plus loin, une deuxième fois, au moment des Ziphiens qui conduisent Saül, verset 12 du chapitre 26, que tout le monde dormait, car un profond sommeil envoyé par l'Éternel était tombé sur eux. On voit donc par cette intervention divine comment Dieu conduisait les circonstances et gardait David à travers toutes celles-ci. Et David n'était en fait que chassé sur les montagnes comme une perdrix, en peine pour sa vie, avec 400 hommes qui étaient des rejetés de ce monde. Par deux fois, et c'est peut-être le moment le plus triste de la vie de David, David va chercher refuge auprès de Achish, roi de Gath, et la deuxième fois, proteste même de sa bonne foi auprès d'Achish en lui disant qu'avec ses hommes, il voulait bien se mettre du côté des armées des Philistins pour combattre contre le propre peuple de Dieu dont David déjà était ouin roi. Et c'est Achish qui règle la question et qui empêche que cette chose arrive. Alors là, une discipline nécessaire a été envoyée de la part de Dieu, c'est Tsiklag, et David et les siens perdent tout, sans exception. Et pourtant, ils vont tout recouvrir. Verset 6 du chapitre 30. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande détresse. Il pleure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force en eux pour pleurer. Le peuple parlait de le lapider. L'âme de tout le peuple était pleine d'amertume. Chacun est cause de ses fils et de ses filles. Et David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Alors ensuite, il recouvre tout. On trouve un petit peu avant l'exemple d'Abigaïl, c'est au verset 25, c'est un peu avant. Abigaïl, qui était la femme de Nabal, qui est un homme violent, un homme de Bélial, reconnaît dans David, loin de l'Éternel, et voit par avance, par la foi, c'était un exercice profond de la foi de cette femme qui avait une sensibilité merveilleuse, reconnaît dans David, loin de l'Éternel. Et pourtant, il n'y avait aucune trace de la gloire du roi à ce moment-là, puisque le roi était encore entièrement rejeté. Abigaïl est le plus bel exemple dans la vie de David de ce qu'est la position de l'Église associée maintenant au vrai David qui est maintenant un roi rejeté. C'est lorsque il n'y a aucune trace de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ dans le monde qui a rejeté et crucifié Christ, que l'Église est invitée à s'associer à Christ dans sa réjection. Et c'est ce que fait Abigaïl. Plus tard, elle partagera la gloire du roi dans sa gloire future, comme l'Église plus tard. C'est la même pensée qu'on trouve dans les deux femmes de Moïse et de Joseph, réciproquement. On trouve un trait comparable dans la position du brigand sur la croix. Il n'y a aucune trace de la gloire de Christ lorsqu'il demande à Christ de se souvenir de lui dans son royaume. Mais le royaume à venir était pour le brigand aussi clairement assuré que si Christ sur la croix régnait à ce moment-là en gloire. Voilà ce qu'est la foi. La foi devant ses circonstances s'élève au-dessus des circonstances du moment. C'est ce que fait Abigaïl. Et dans une mesure, on voit donc cet homme, David, qui traverse toutes les circonstances et qui a appris beaucoup de choses par les peines, par les souffrances qu'il a connues. C'est un merveilleux type de Christ. En enlevant toutes les défaillances de David, nous trouvons un des plus beaux types de Christ dans l'Ancien Testament. Alors voilà comment s'ouvre. Et on trouve la fin de Saül à la fin du premier livre de Samuel, une fin triste, un peu assez misérable avec celle de Jonathan. Maintenant, David est délivré. La guerre sera longue quand même entre les deux maisons de David et de Saül. Et en définitive, David montera sur le trône à Jérusalem. Il montera sur le trône, d'abord il viendra à Hébron, et ensuite à Jérusalem. Alors le psaume 18, c'est le premier cantique de 2 Samuel 22, se place à ce moment-là de la vie de David, lorsque David a été complètement délivré de ses ennemis. Je ne donne que la structure du psaume, j'en ai dit un mot tout à l'heure, parce qu'autrement le détail nous entraînerait trop loin. L'introduction est au premier verset de 2 Samuel 22, au verset 2 et jusqu'au verset 19, l'astérisque se trouve au verset 20. Nous avons dans le thème, c'est le sujet de la délivrance, les différentes phases de cette délivrance, et nous avons dit tout à l'heure, c'est la délivrance de Saül, de la main des ennemis, c'est la délivrance pour Christ de ce puissant ennemi qu'il a vaincu par la mort, c'est la délivrance d'Israël hors d'Égypte, et c'est la délivrance du résidu fidèle à travers les jugements de la fin pour la jouissance du royaume terrestre. Tout y est. Ensuite, au verset 20 jusqu'à la suite du paragraphe, jusqu'au verset 30, verset 20 à verset 30, les 11 versets suivants sont les causes de la délivrance. Alors, David met en cause sa fidélité et sa justice. Il est bien clair que Christ seul a pu le faire en perfection. Christ seul a été l'homme juste. Et on comprend ainsi pourquoi ce psaume 18, le cantique de 2 Samuel 22, se trouve à sa place entre les psaumes 17 et 19. Au psaume 16, c'est le chemin et la vie de la foi, Christ comme offrande de gâteau. Au psaume 17, c'est le chemin de la justice. Le psaume 18, c'est le cantique de la délivrance. Le psaume 19, c'est le double témoignage de la création et de la parole. Et toutes ces choses, c'est de Christ dont il s'agit. Les causes de la délivrance, c'est la fidélité qui a été accordée en grâce à David et qui a été intrinsèquement et en plénitude manifestée par Christ, parce que Christ a été l'homme juste, l'homme fidèle ici-bas, l'homme qui a parfaitement manifesté toute justice. Au verset 31 jusqu'à la fin, c'est les détails, certains détails de ce que Dieu avait fait pour David, et c'est là que David puise les causes de sa joie et l'expression de sa reconnaissance et de sa louange, parce que ce psaume est un psaume de louange. Et le cantique de la délivrance termine au verset 51 par cette expression: c'est lui qui a donné de grandes délivrances à son roi, David était bien le roi d'Israël, qui use de bonté envers son oint, envers David et envers sa semence à toujours. L'oint et le saint, le cassid, c'était le vrai David. La bonté même, l'expression de la sainteté et de la bonté, c'est en Christ que ses qualités, que ses caractères se trouvent en plénitude. Le passage se trouve facilement dans le livre des Chroniques, dans un des psaumes. Si l'histoire de David en était restée là, tout aurait été beaucoup plus heureux, beaucoup plus béni. Et maintenant, David doit avoir une autre leçon à apprendre. Il a appris que Dieu est avec lui dans sa faiblesse, dans son rejet du monde, dans ses peines, ses souffrances, et il a appris que la délivrance, c'est Dieu lui-même qui la lui avait confiée, qui lui avait donnée. Il en a une grande reconnaissance envers Dieu. Maintenant, il faut qu'il apprenne ce qu'il y a dans son propre cœur, et il l'apprend dans des circonstances qui sont différentes. David n'a plus, on peut le dire, la ressource de ses peines. Il y a une grande instruction à recevoir pour chacun de nous, sans aucune exception. Nous n'avons pas à demander à être débarrassés des peines et des afflictions et des souffrances que le Seigneur envoie pour notre bien. Le Seigneur le sait. Le Seigneur sait que le creuset de l'épreuve est dosé selon la mesure de foi, selon la mesure de force qu'il nous prête pour que nous puissions supporter. 1 Corinthiens 10, il dit aussi clairement que possible. Ce que nous avons à demander au Seigneur, c'est qu'il nous garde là où il nous place. Et les expériences que David a faites lorsqu'il était rejeté, il ne les a plus faites de la même manière lorsqu'il était justement au fait de sa gloire. Maintenant, il va le découvrir ce qu'il est. Il y a déjà une différence de sensibilité dans la conduite de David. Je ne suis pas sûr de retrouver le passage, mais juste après l'affaire de Bathsheba et d'Uri, c'est dans 2 Samuel 12, on voit que la gloire du monde n'était pas insensible maintenant au cœur de David. On voit que la couronne des rois, des ennemis, est placée sur sa tête. Elle fut mise sur la tête de David. Regardez la différence entre 2 Samuel 8, 11. Lorsqu'on avait trouvé des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain, à l'occasion d'un jugement antérieur des ennemis, lorsque David avait frappé les Philistins pour les subjuguer, et lorsque Toï, roi de Hamath, avait appris que David avait frappé. Alors lui se fait battre, et les vases, David les consacre à l'Éternel. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il oublie l'Éternel, ce serait mal juger un serviteur, et nous n'avons absolument pas apporté de jugement de valeur sur la conduite de cet homme exceptionnel. Mais la différence est quand même flagrante. Maintenant, la couronne, elle est mise sur la tête de David et les choses ne sont plus consacrées à l'Éternel. Et puis, le cœur de David, qui était si sensible qu'il a regretté d'avoir coupé le pan de la robe de Saül dans la caverne, là, lorsque, au fond, Dieu livrait Saül entre la main de David. Bien, que fait maintenant David? Il fait sortir le peuple qui se trouve, les met sous la scie, sous des herses de fer, des haches de fer, les fait passer par un four à briques. Je crois que c'est JND, quelqu'un a dit... Il est bien clair que ses ennemis étaient des ennemis insolents et qu'ils devaient être jugés. Mais y avait-il peut-être quand même d'autres moyens que ces moyens extrêmes, barbares, pour se débarrasser des ennemis de Dieu? L'indice, c'est qu'en fait, la sensibilité du cœur de David, c'était quand même dans une mesure émoussée. Et il n'y a rien de tel. J'ose peut-être dire que c'est par expérience que je parle. Pour émousser la sensibilité spirituelle de notre cœur, que les tentations des gloires du monde. C'est une chose qui est extrêmement sensible pour le cœur naturel. Que le Seigneur nous en garde. Il y a quand même eu à ce moment-là de très belles choses, de beaux traits de foi et de caractère de la vie de David. Une bonté de Dieu, un droit et justice à tout le peuple, 2 Samuel 8. David faisait droit et justice à tout son peuple. Y a-t-il quelqu'un qui soit demeuré de reste? J'userai envers lui d'une bonté de Dieu. Et Méphibosheth est le témoin de cette bonté divine que David manifeste à son égard en l'invitant à la table du roi. Et puis alors, à un moment de nonchalance dans la vie de David, alors qu'il aurait dû sortir avec les armées de l'Éternel, David est resté à Jérusalem au retour de l'année de Samuel 11 et l'inévitable est arrivé parce que la paresse entraîne souvent la défaillance. Sa place à David n'était pas à se reposer sur le toit de sa maison au soir de cette journée de nonchalance, il aurait dû être avec les ennemis. Ceci d'ailleurs n'excuse en aucune manière l'attitude de Bathsheba qui manquait complètement de réserve. Alors, le double péché de l'adultère et du crime, du meurtre, apportait maintenant des conséquences graves dans la vie de David. Il est bien clair que ce double péché lui a été pardonné. Et les conséquences de sa faute ont subsisté dans sa vie et surtout dans celle de sa maison. Il avait hâtivement pensé que le voyageur, la personne qui avait pris la brebis de l'homme pauvre pour traiter le voyageur, devait la rendre quadruple. Alors il avait bien pris la vie de Uri le Héthien, il avait volé sa femme, et maintenant il a rendu au quadruple cette brebis qu'il avait prise, dans le petit enfant qui est mort, dans Absalom, dans Amnon, et dans Adonijah. Et Dieu lui a dit que désormais, l'épée ne s'éloignerait plus de sa maison. Et puis il avait donné occasion aux ennemis de l'Éternel, il a fallu que ses propres femmes soient déshonorées aux yeux de tout Israël sous le soleil, et l'enfant est mort. Trouver après quand même des traits de foi de David, peut-être que sa vie n'a pas été tout à fait la même après qu'il soit monté sur le trône et après l'affaire de Uri et de Bathsheba, mais on retrouve quand même un trait merveilleux, en particulier lors du siège de Jérusalem, lorsqu'il a dû s'enfuir de la montagne des Oliviers, on trouve un trait de caractère, c'est la confiance inébranlable de David en Dieu. À Xiclag, les choses n'étaient pas brillantes puisque tout le monde avait tout perdu. On parlait même de lapider David parce que tout homme était dans l'amertume. Eh bien, Dieu était la confiance de David. C'est le dernier verset de Samuel 30, le verset 6. L'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils. David s'est fortifié en l'Éternel son Dieu. Dans la seconde partie de sa vie, on trouve des traits de cette même confiance. Et quelqu'un a dit que peut-être il n'y avait pas de plus beau type de Christ dans la vie de David que ce moment où, en 2 Samuel 15, 30, David monte par la montagne des Oliviers, montant et pleurant. On s'était bien clair que plusieurs des circonstances que David traversait étaient la conséquence de ses fautes, et comme gouvernement de Dieu, il devait subir les conséquences de sa conduite. Mais néanmoins, il y a des traits de caractère ici qui nous montrent que il est très proche de Christ le modèle. Et puis un dernier point, c'est une des défaillances de David, qui est remarquablement citée dans le livre de Samuel, qui nous parle plus de la responsabilité du peuple et du roi, alors que le livre des Chroniques nous parle plus des conseils de Dieu, de la grâce, de la bonté. Eh bien, David se laisse même aller à vouloir dénombrer le peuple, ce qui était un manque évident de confiance en Dieu. Joab trouvait que la chose était inutile, il était inutile de se fâcher avec Dieu s'il n'y avait pas un gain matériel immédiat, puisque Joab était un homme complètement terrestre, humain. Et la parole du roi prévaut, Et David fait dénombrer le peuple. C'est une des dernières défaillances qui nous sont rapportées dans la vie de David. Alors la raison est merveilleuse pourquoi cette défaillance n'est rapportée qu'après les deux cantiques, c'est-à-dire après la dernière parole de David, fils d'Isaïe. Eh bien parce qu'à ce moment-là, sur la montagne des Oliviers, à l'ère d'Ornan Jébusien, eh bien David va prendre cette place d'intercession et va préfigurer ce que sera le sacrifice de Christ sur la vraie montagne. Revenons donc au chapitre 23, c'est le deuxième cantique, c'est le cantique de la délivrance de David de lui-même, c'est le cantique qui en même temps chante la fidélité de Dieu et qui reconnaît que sa maison n'a pas été ce qu'elle aurait dû être devant Dieu. David parle comme oracle de Dieu. C'est ce que devrait être le mystère dans l'assemblée. Chacun de vous parle comme oracle de Dieu, est-il dit dans 2 Pierre 1 Pierre 3, 4 ou 5. La parole, la diction oraculaire, c'est une diction qui a d'ailleurs été dans la bouche de Balaam, le plus mauvais, le plus faux, le plus méchant de tous les prophètes. Il a parlé de la part de Dieu. Ici, David parle et il prend 4 caractères successifs. Le premier, c'est le fils d'Isaïe. C'est le souvenir de son humble origine. Il est l'homme haut placé. C'est l'homme élevé. C'est l'homme qui a eu le pouvoir. Du point de vue de son expérience de la vie, c'est l'homme qui, si on ose dire une expression contemporaine, c'est l'homme arrivé. Il avait tout sous ses pieds. Il pouvait commander comme il voulait. Il a dû faire l'expérience que ce n'est pas facile de se contrôler, se dominer soi-même. Ensuite, il est loin du Dieu de Jacob. Il est donc roi d'Israël. Et c'est le... Comme Moïse autrefois, il était roi en Jeshurun. Jeshurun est le nom poétique d'Israël. Et puis, il est le double psalmiste d'Israël. Il est celui dont les pensées, les sentiments profonds du cœur expriment comme personne n'a pu le faire. La préfiguration des sentiments de Christ. Tous les psaumes qui nous parlent des souffrances de Christ sont pratiquement ceux de David. Bien que, on a remarqué, je crois que je l'ai signalé ici, que dans le cantique qui a été présenté par Jonas, la prière et le cantique qui ont été présentés par Jonas dans le ventre du poisson, il y a au moins 7 ou 8 auteurs différents. Et David occupe une bonne place dans cette position. Mais le double psalmiste d'Israël, la plainte et les sentiments de son propre cœur ont été une expression, une harpe merveilleuse pour nous parler de ce qu'est la musique qui est Christ lui-même. Alors que dit-il? C'est l'Esprit de l'Éternel qui parle en lui. Et sa parole a été sur la langue. C'est le Dieu d'Israël qui parle et le rocher d'Israël qui leur a parlé. Alors celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant à la crainte de Dieu. Il sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuages. Par sa clarté, l'herbe tendre germe de la terre après la pluie. Voici le côté positif, le côté glorieux, le côté des bénédictions. Qu'y a-t-il? Eh bien pour nous, c'est le temps de l'absence de Christ qui est le temps des ténèbres. C'est la nuit de l'absence de Christ. Le linceul, la mort de Christ est étendue sur le monde. Alors il y a l'espérance d'un lever d'un jour. Pour nous, c'est l'étoile brillante du matin. Pour le monde à venir, c'est le soleil de justice. Ésaïe 21, le matin vient et aussi la nuit, si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous, revenez, venez. Il est dit dans un psaume que le soir, les pleurs viennent loger avec nous. Et le matin, il y a un chant de joie. C'est le psaume 30. Dans le psaume 112, il nous est dit que la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il paraît difficile que la lumière puisse se lever au milieu des ténèbres sans les chasser. Dans le domaine spirituel, oui. Parce qu'il peut y avoir une lumière dans mon cœur alors que les ténèbres envahissent encore le monde tout autour de nous. Et puis, il nous est dit dans le Romains 13 que le temps de nous réveiller est arrivé parce que la journée va se lever parce que le temps de la nuit est fort avancé. Romains 13, verset 11, le temps de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme de jour. C'est en se conduisant sobrement, justement et pieusement qu'effectivement nous manifesterons que pour nous, la nuit fort avancée et que le jour s'est approché. Alors l'étoile du matin est déjà levée dans notre cœur. L'étoile du matin n'est citée que 3 fois dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Pierre, en rapport avec la parole prophétique. La promesse qui est donnée à celui qui va vaincre dans Thyatire et le Seigneur qui se présente à son peuple comme la racine et la postérité de David et à l'Église comme l'étoile brillante du matin. Cette étoile, pour nous, annonce la délivrance pour le peuple d'Israël, pour le résidu qui traversera les jugements. Elle annonce la levée d'un jour éternel. Et ce jour éternel sera celui où le soleil de justice régnera, éclairera le monde. En même temps que le soleil, en même temps que la lumière du matin et que le soleil qui se lève, il y a l'herbe tendre qui germe de la terre après la pluie. Je ne veux pas multiplier les citations, mais ne citer simplement que ce que l'apôtre Jacques en dit dans Jacques 5, qui nous montrera qu'il y a une double venue de la pluie. Verset 7, Jacques 5, 7. « Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. » Bon, il y a probablement ici une allusion, en tout cas dans d'autres passages des prophètes, une allusion à l'effusion de l'Esprit qui viendra pour conduire le résidu dans la reconnaissance d'abord de sa faute, retrouver le Messie qu'il avait rejeté, qu'il avait crucifié, et être introduit dans la bénédiction. Nous n'avons pas demandé d'ailleurs que la pluie de la bénédiction, de la descente de l'Esprit soit sur nous, parce que l'Esprit est déjà descendu au jour de la Pentecôte. Fraîches ondées descendaient sur nous tous. Si on applique ce cantique à la descente de l'Esprit Saint, c'est une erreur de dispensation. Alors la première pluie fait germer, et la dernière pluie amène le fruit à maturité. C'est la raison pour laquelle il faut deux pluies. Il faut faire germer la semence, et ensuite il faut que la semence produise un fruit pour la gloire de Christ. Et les caractères du fruit, on les trouve dans les épîtres. Il y a une lumière qui se lève, il y a le soleil, un matin sans nuages, l'herbe tendre germe de la terre après la pluie. Alors de l'autre côté, c'est le verset 5 qui nous en parle, il y a le côté de ce que David a appris maintenant, « Quoique ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu. » Il n'y a aucune trace d'amertume, une peine profonde. Il y a moins de joie dans le premier cantique. Mais il y a certainement une jouissance égale de la grâce et de la patience de Dieu. Et c'est la grande leçon de la vie. Deutéronome 8 nous enseigne que l'histoire d'Israël leur a appris deux leçons. La première, c'est ce qu'ils étaient, ce qu'il y avait dans le propre cœur du peuple, ce qu'il y a dans notre cœur à nous. Et la deuxième leçon, c'est ce qu'était le cœur de Dieu. Une leçon encourageante et une leçon nécessaire. Quoique ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu, on ne peut plus changer ce qui a été fait dans sa vie antérieure. Et on peut certainement reconnaître la fidélité de Dieu, parce que Dieu demeure le même, Dieu demeure toujours fidèle. Et l'alliance éternelle, il ne la faisait pas germer immédiatement, mais elle assurerait la bénédiction de la semence, de la descendance de David. Et c'est selon l'œuvre de Christ, l'Église est bénie, que nous sommes sauvés, que nous sommes bénis, et que le résidu plus tard sera introduit dans la bénédiction. Alors la différence entre l'Église et le résidu, parce qu'ici nous sommes sur un terrain terrestre, c'est que immédiatement, lorsqu'il est question d'une bénédiction à venir, c'est les jugements qui sont mentionnés. Versets 6 et 7, les fils de Bélial d'ailleurs, on en a trouvé plusieurs traces de caractère de ces fils de méchanceté et d'iniquité dans ceux qui se sont opposés à David. Eh bien, les fils de Bélial doivent être l'objet d'un jugement. De la même manière qu'on sépare l'ivré du bon grain en Matthieu 13 pour le jugement à la consommation du siècle. Nous n'attendons pas le jugement, nous attendons en grâce la venue de Christ. De sorte que l'Église sera délivrée de la scène présente par la venue de Christ en grâce, en bonheur, en puissance pour prendre son Église auprès de lui, et le résidu, traversant les jugements, sera délivré par le jugement qui atteindra les ennemis de l'Éternel. De toute manière, la fin est une bénédiction, soit pour le temps, soit pour l'éternité, soit pour la terre, pour le résidu terrestre, soit pour le ciel, pour l'Église. Il y a dans ces deux cantiques certainement une leçon profonde. Que le Seigneur nous garde dans la jouissance de son amour, dans la réalisation que nous ne sommes que faiblesse, et qu'en même temps, la faiblesse acceptée, consentie, ne soit pas un voile pour la paresse spirituelle ou pour le manque de vigilance, parce que la parole nous enseigne que si l'amour de Christ ne peut pas ne pas s'exercer envers nous, est toujours le même, parce qu'il en va de son amour pour nous, mais aussi de sa justice de sa grâce et de sa vérité. En même temps, tout ce que nous faisons ici-bas porte des conséquences. En définitive, mais c'est la consolation, le gouvernement que n'est que pour la terre. Et au ciel, nous garderons éternellement le souvenir, perpétuellement renouvelé dans le cœur des saints et de l'Église, de sa miséricorde qui nous aura gardés et portés jusqu'à la fin.